prophète de l'espérance.
Des orientations, une route à tracer.
Regardons d'abord l'Église primitive. Et je cite les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Sans tomber dans les raccourcis trop faciles parce que les temps ont changé et que nous ne pouvons pas vivre de façon anachronique, nous pouvons repérer 5 points importants dans la vie des premiers chrétiens. La formation, l'écoute de l'enseignement des apôtres. L'adoration, la prière et l'Eucharistie. L'évangélisation, l'accueil de nouveaux disciples. Le service, la charité et le partage. La fraternité, la communion entre tous. Ces 5 éléments se complètent et se soutiennent mutuellement. Chacun est nécessaire et aucun n'est suffisant. Comme il faut manger de tout et de manière équilibrée pour être en bonne santé et en croissance, le chrétien ne peut rester cantonné dans un domaine seulement, avec sa messe, son équipe, son mouvement. Depuis quelques années, tant du côté évangélique que du côté catholique, ces différents aspects ont été appelés les 5 essentiels, ou les 5 vitamines de la vie chrétienne, pour nous aider à vivre en disciples, fils, apôtres, serviteurs et frères. Je les mets volontiers en rapport avec les 5 missions diocésaines que j'ai instituées en 2017. Initiation et formation, liturgie et sacrement, communication et nouvelle évangélisation, diaconie et solidarité, famille, jeunes et vocation. Nous pouvons les rapprocher aussi des 5 étapes de la conversion missionnaire énoncées dans le texte d'Aparecida qui fut rédigé en 2007 par le futur pape au nom des évêques d'Amérique latine. Rencontre avec le Christ, conversion, formation du disciple, communion, mission. Ce texte l'a beaucoup inspiré pour rédiger l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile » en 2013, dans laquelle il invite à la transformation pastorale et missionnaire. Nous les recevons aujourd'hui comme 5 repères qui devront nourrir et habiter tous nos projets, nos rencontres et nos actions pastorales. Comme les 5 doigts de la main, de façon indissociable, ils seront mis en œuvre. Dans chaque oasis, pour les chrétiens, et dans le désert, lors de nos missions vers les non-chrétiens. Vous l'avez compris, je ne vais pas décréter ce que chacun doit faire, je ne vais pas non plus me contenter de réformer des structures. J'invite une nouvelle fois chacun à vivre en disciple missionnaire, authentique et cohérent. C'est tout simplement notre vocation de baptiser. Si l'enseignement des pères conciliaires nous a permis de redécouvrir ou d'approfondir heureusement le sacerdoce baptismal, il nous appartient d'en déployer toute la beauté encore et toujours avec une joie renouvelée. Je compte sur chacun et vous pouvez compter sur moi. Si tu es un chrétien qui te nourrit des 5 vitamines et les distribue autour de toi, alors tu accepteras les changements inévitables et incontournables. Tu regarderas plus loin que l'ombre de ton clocher. Tu cesseras d'alimenter les conflits de pouvoir. Tu vivras dans une oasis de vie chrétienne et tu iras dans le désert pour faire de nouveaux croyants. Pour bien les comprendre et les mettre en œuvre, j'ai voulu placer chacun des 5 essentiels sous le patronage d'un membre de la communauté apostolique. C'est par elle, en effet, que nous avons reçu le dépôt de la foi. Ce sont les apôtres qui, transformés par le souffle de l'Esprit-Saint, sont partis en mission pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Saint-Pierre. Saint-Pierre est une figure extraordinaire. Il avait professé sa foi devant tous. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui confia sa mission. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il avait vacillé au moment de la Passion, reniant son Seigneur trois fois. Et Jésus lui répéta trois fois la nature de sa mission. « Sois le pasteur de mes brebis. » Il sera martyrisé à Rome et son tombeau se trouve sous l'autel de la basilique Saint-Pierre. Les disciples, baptisés, confirmés, catéchisés, eucharistiés, mariés, consacrés, ordonnés, engagés, ont droit à la nourriture de la parole de Dieu et de la grâce divine dans les sacrements. C'est vital et nécessaire s'ils veulent être missionnaires. Ceux qui ont mis leur foi dans le Christ ressuscité ne doivent en aucun cas être délaissés sous prétexte qu'il faille être missionnaire. La parole de Dieu est vivante. La tradition de l'Église reçue des apôtres l'est aussi. Elle n'est ni un dossier poussiéreux sur une étagère, ni un fantasme nostalgique de la période idéale. Saint-Pierre, qui fit un discours fondateur le jour de la Pentecôte, nous fera aller au cœur de la foi, qu'on appelle le kérigme. Jésus, Messie, est Seigneur et Sauveur. Ou Jésus, Fils de Dieu, est mort et ressuscité. Il nous aidera à demeurer fidèles à la parole de Dieu et à la sainte tradition de l'Église qui porte la parole de Dieu. Selon les mots du Concile Vatican II. Ayant reçu la primauté parmi les apôtres, comme son successeur l'exerce encore aujourd'hui, et étant devenu le pasteur des brebis, il nous inspirera pour le gouvernement et l'animation des communautés chrétiennes. Avec Saint-Pierre, nous approfondirons notre foi et nous aimerons l'Église. Saint-Jean. Saint Jean est le disciple bien-aimé du Seigneur. Dans son évangile, il nous fait entrer dans le cœur du mystère de Dieu et nous fait percer les secrets de son amour. Le plus jeune parmi les apôtres, il est associé de très près par Jésus à la révélation de son saint nom, de son identité et au mystère de la Passion. Déjà, il accompagnait Pierre et Jacques sur la montagne au jour de la Transfiguration. Il est là à côté de Jésus lors du repas de la scène et il se tient au pied de la croix avec Marie. Au matin de Pâques, il court vers le tombeau avec Pierre et attend son frère plus âgé pour entrer. En entrant, il vit et il crut. Il entretient une relation de confiance privilégiée avec Jésus et nous fait part de ses découvertes spirituelles. Il nous guidera dans l'intériorisation, la rencontre avec le Christ, pour accueillir dans nos cœurs la joie de l'Évangile. Avec lui, nous pourrons enraciner davantage notre vie de disciples dans la contemplation du mystère de l'amour divin, afin de demeurer en lui comme il demeure en nous. Il nous rappellera sans cesse que nous sommes les amis de Jésus, choisis par lui pour aller et porter du fruit. Il nous rendra plus généreux pour accueillir l'Esprit-Saint qui nous enseigne toutes choses et nous conduit vers la vérité tout entière. Sans cette intimité avec le Seigneur, nos projets, nos prédications, nos témoignages, nos catéchèses, nos actions, nos engagements deviendraient un activisme stérile. Pour porter du fruit, il n'y a qu'une seule voie, celle de demeurer en Jésus. Avec Saint Jean, nous vivrons la contemplation pour demeurer en Jésus. Saint Paul. Saint Paul a une histoire bien différente de Pierre et de Jean. il a reçu le titre d'apôtre sans avoir fait partie des 12. C'était après l'événement de la Pentecôte. Alors qu'il poursuivait les disciples de Jésus et les conduisait en prison, Paul fit une rencontre fulgurante avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Sa conversion fut saisissante. De Saul le persécuteur, il devint Paul le missionnaire. De façon infatigable, il parcourt le bassin méditerranéen pour annoncer l'Évangile et fonder des communautés. Rien ne l'arrête, pas même la prison à plusieurs reprises. Il est l'apôtre des païens et proclame le cœur de la foi, le kérigme, à temps et à contre-temps. Il va à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas le Christ Jésus et il témoigne « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile !» C'est la nature même de l'Église d'être missionnaire. Saint Paul nous accompagnera donc en sortie, vers les périphéries, pour un authentique témoignage en parole. Il nous aidera à bien mesurer que c'est notre vocation et notre mission que de donner une première annonce de la foi à ceux qui ne sont pas disciples, aux païens d'aujourd'hui, dans la Marne, avant même de vouloir les intégrer dans un groupe de catéchèse ou de les conduire à la messe. L'annonce du mystère de la rédemption est essentielle et première. Cette proclamation a une puissance telle que nos discours, avec leurs détours et précautions, semblent bien piètres. Il nous faut dire clairement, avec les mots de l'Église, le cœur de la foi. Et il faut le faire en cherchant comment traduire le message dans le langage d'aujourd'hui, pour qu'il puisse être entendu et compris par chacun dans sa langue maternelle, ou dans son dialecte, c'est-à-dire dans son univers mental et culturel. C'est vrai pour les adultes comme pour les enfants. Ceux qui ont soif attendent que nous leur donnions à boire, plutôt que de les laisser chercher eux-mêmes de l'eau. Avec saint Paul, nous sortirons pour annoncer. Saint Jacques. Saint Jacques, frère de saint Jean, fut appelé parmi les premiers apôtres au bord du lac. Avec Pierre et Jean, il fut un témoin privilégié des événements majeurs du ministère de Jésus, comme la transfiguration et la prière au mont des Oliviers. Il était présent aussi au Cénacle, au moment de la Pentecôte. Nous le connaissons surtout à cause de l'intervention assez audacieuse, presque déplacée, de sa mère. Alors que Jésus venait d'annoncer sa passion et sa mort à venir, elle voulait voir ses fils honorés, à la première place, près de Jésus. La réponse du Seigneur fera bien comprendre à Jacques qu'il devra se faire serviteur et donner sa vie jusqu'au bout comme lui. Il fut tué par le glaive au moment de l'arrestation de Pierre. Même si nous ne sommes pas certains de l'identité de son auteur, la lettre de saint Jacques, qui figure dans le Nouveau Testament, nous invite au témoignage par les actes. La nouvelle évangélisation ne se réduit pas à la première annonce du kérigme. La vie chrétienne ne se limite pas à la prière. Et même plus, saint Jacques nous dit « La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte ». Le service des plus pauvres, fragiles ou vulnérables est un témoignage évangélique authentique et puissant. C'est l'Évangile en acte. Il rend le discours crédible. La diaconie de l'Église est une véritable œuvre d'évangélisation. Les engagements sont multiples et les occasions ne manquent pas de se mettre au service des autres. Saint Jacques nous prendra par la main pour aller à la rencontre des plus petits, ouvrir nos maisons pour accueillir, donner à manger et à boire, visiter les malades. Il nous indiquera les voies du développement humain intégral, du respect de la création, notre maison commune, de la personne humaine dans sa dignité, de la défense de la vie, de la conception jusqu'au dernier souffle. Il nous invitera à l'engagement chrétien dans la cité, comme les pères conciliaires nous y exhortaient. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Avec Saint Jacques, nous nous engagerons à servir. Sainte Marie, la bienheureuse Vierge Marie est donnée à Saint Jean comme étant sa mère. Mère de Jésus, elle est donc aussi notre mère. Elle veille sur l'Église comme elle veilla sur Jésus, l'emmaillotant et le couchant dans une mangeoire, le cherchant dans la foule, le mettant en avant pour l'ouverture de son ministère à Cana, le recueillant dans ses bras à la descente de croix. Elle se trouve au Cénacle avec les apôtres et prie avec eux. Elle est au cœur de l'Église naissante, elle qui fut la demeure de Dieu parmi les hommes, par l'action de l'Esprit-Saint. Elle nous redit ainsi que l'Esprit-Saint est le protagoniste de la mission. Mère de l'Église, Marie nous soutiendra dans l'effort constant de fraternité, selon le commandement de Jésus dans l'Évangile « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Sans la charité fraternelle, notre Église ne peut donner aucun témoignage authentique. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Il nous faut vivre le mystère de l'Église communion, ou, comme on dit au Burkina Faso, de l'Église famille. Les chapelles nous séparent les uns des autres, l'Église nous rassemble en un seul corps. Pas seulement pour prier ou célébrer en chrétiens juxtaposés, mais aussi pour vivre l'amitié avec bienveillance et cordialité, partager les moments joyeux et douloureux de la vie, fêter, chanter, jouer, être heureux ensemble, accueillir les nouveaux croyants avec la chaleur humaine qu'ils trouvent parfois ailleurs. Marie nous rassemblera sous son grand manteau protecteur et nous apprendra à vivre, non en concurrent ou en ennemi, mais en frères et sœurs. Avec Sainte Marie, nous vivrons la communion et la fraternité. Avec ces figures apostoliques, nous allons faire fleurir le désert, développer un réseau d'oasis pour accueillir de nouveaux croyants. Dans l'espace et dans le temps. Dans l'ordre spatial, une oasis peut être un lieu géographique, une communauté humaine, la paroisse, une équipe, une famille, une école. Ce tissu séculaire se distend pourtant avec l'évolution de la vie sociale, des échanges économiques, des moyens de transport et de communication. Une oasis peut aussi être un lieu d'un nouveau type, sur le mode des réseaux. Il y a le réseau Internet et toutes les connexions digitales, mais aussi les milieux du sport, de la musique, de la culture, de l'enseignement, et aussi les lieux de passage et de chalandise, tourisme, commerce. Enfin, une oasis pourra être un lieu connu et visible, lieu de convergence et de haute force symbolique, de rayonnement spirituel et d'accueil. Une communauté religieuse, un sanctuaire. Parler de réseau pour les oasis spatiales, c'est insister sur le nécessaire décloisonnement. Fini le temps des forteresses isolées, où chacun travaille à son compte avec une vue étroite, où chacun réduit l'Église aux dimensions de son mouvement ou de son groupe de prière. Il nous faut entrer dans le temps de la véritable fraternité, où chacun partage ses projets avec humilité et accueille avec joie ceux de l'autre, sans jalousie, ni adversité, ni esprit de concurrence. Dans l'ordre du temps, l'oasis sera un moment ou un événement ponctuel marquant, accessible aux agendas de toutes les générations. Le dimanche, une célébration, un service, une fête, un chantier solidaire, une récollection, un voyage, un pèlerinage. Parler de réseau pour les oasis temporelles, c'est veiller à une juste articulation entre le temps court et le temps long. C'est le but de cette lettre que de définir une vision missionnaire à long terme, qui doit éclairer et soutenir nos projets à plus court terme, comme la sève qui nourrit toutes les branches de l'arbre. Une dynamique est lancée, on ne papillonne pas dans une succession d'événements sans connexion entre eux, mais nous prenons le temps de réfléchir pour voir où nous allons, et nous avançons d'étape en étape sur cette route, le pasteur étant à la fois, selon les mots du pape François, devant pour indiquer la route et soutenir l'espérance du peuple, d'autres fois au milieu de tous, dans une proximité simple et miséricordieuse, et en certaines circonstances, derrière le peuple, pour aider ceux qui sont restés en arrière, et surtout parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. C'est une double évidence. Nous ne pouvons plus assurer une couverture territoriale globale. Et la régularité du métronome a laissé place à l'événementiel. Il nous faut développer des oasis de vie chrétienne. Là viendront boire ceux qui ont soif de la vie et de la vérité. De là partiront dans le désert ceux qui désirent annoncer l'Évangile. Nous devrons veiller à ceci. Il n'y a pas d'oasis spécialisée ou réservée à l'un des cinq essentiels de la communauté apostolique. Dans chaque oasis, nous les vivrons de façon toujours complémentaire. C'est l'appel que le Seigneur nous adresse.